Bonjour et bienvenue sur Bac FM 106.1 dans l'émission À quoi qu'on joue, votre rendez-vous mensuel sur les activités ludiques du Conservatoire du jeu. Je suis Daoud et je vous accompagne durant cette émission. En deuxième partie d'émission, nous retrouverons mon invité du mois, Damien Pérez, qui vient nous parler de son parcours de joueur et de son activité de forgeron. Mais avant l'interview de Damien, voici les dates à retenir pour les animations du mois de juin. Alors, le vendredi 31 mai, nous serons à la fête du jeu de la charité. Toute l'après-midi, de 14h à 18h, nous proposerons nos jeux traditionnels. Il y aura bien évidemment tout un tas d'autres activités ludiques en perspective. Le samedi 8 juin, vous pourrez nous retrouver à Pouilly-sur-Loire à l'occasion de Jeux en campagne. Encore une manifestation tournée vers le ludique, et ce pour la 6e année consécutive. Nous serons là-bas avec nos jeux traditionnels et avec un espace de jeux vidéo rétro gaming pour la première fois. Il y aura bien évidemment aussi plein d'autres activités ludiques comme des jeux de plateau ou des jeux de plein air. Et pour finir, le jeudi 13 juin de 20h à 22h, nous serons place Guy Coquille avec nos jeux traditionnels pour notre soirée mensuelle des Jeudi Night Fever. Alors voilà pour les annonces officielles, néanmoins nous avons de nombreux autres projets qui devraient se dérouler durant le mois de juin. Alors n'hésitez pas à consulter notre page Facebook ou notre site internet leconservatoiredujeu.fr pour connaître le programme complet de nos activités. Donc sans plus attendre, mon invité Damien Pérez. Bonjour Damien.
Bonjour David.
Alors Damien, est-ce que tu peux nous dire qui tu es ?
Bah, je me présente, je m'appelle Damien Pérez, donc je suis ferronnier d'art, coutelier artisan, et je fais aussi du jeu de rôle et de la reconstitution.
D'accord, bienvenue Damien à cette émission. Comme tu le sais, notre émission s'intitule « À quoi qu'on joue ?». Alors, toi, à quoi tu joues ?
Eh ben, moi je joue à beaucoup de choses en fait. Je fais beaucoup de jeux de plateau, je fais beaucoup de jeux de figurines, je fais aussi du jeu de rôle grandeur nature, des murders, et aussi beaucoup de jeux vidéo.
Ouais, c'est un CV complet, dirait-on. Alors, si Damien est mon invité aujourd'hui, au-delà de son activité d'artisan dont nous parlerons juste après, on peut le dire, on se connaît par le réseau du jeu sur Nevers, par les associations de jeux.
Tout à fait.
Car effectivement, comme nous disait Damien, tu pratiques de nombreuses activités ludiques. Alors, tu nous as cité les murders, les gènes, on en a déjà parlé plusieurs fois dans cette émission. Mais tu nous disais que tu jouais aussi aux jeux de plateau et aux jeux de plateau avec figurines.
Voilà.
Alors, est-ce que tu peux nous citer quelques titres de jeux comme ça que tu aimes bien ou que tu pratiques régulièrement ?
Alors, Zombicide, HeroQuest et Dungeon Saga, par exemple.
D'accord, Zombicide. Alors, HeroQuest, on l'avait déjà cité dans une émission l'année dernière, de mémoire. Zombicide, est-ce que tu peux nous parler un peu de Zombicide ? Qu'est-ce que c'est pour nos éditeurs qui ne connaîtraient pas Zombicide ? Parce que c'est un jeu qui est quand même pas mal à la mode.
Alors, Zombicide, en fait, il existe en plusieurs façons. Il y a la version un petit peu moderne et il y a la version médiévale. Moi, ma préférée, c'est la partie médiévale, donc Zombicide, Black Plague. Donc, en fait, le principe, c'est qu'on va, incarner un aventurier et on va devoir se battre contre des zombies et remplir plusieurs objectifs en fonction de la mission.
Voilà, c'est ça. On a un grand plateau de jeu et on vient placer des figurines et de zombies et de personnages, je crois, c'est ça ?
C'est ça.
Et puis, j'imagine qu'après, il y a tout un système de jeu, toute une mécanique de jeu avec des interactions.
Exactement, on vient en fait, chaque tour, rajouter des zombies, en fonction de si on ouvre une salle ou quoi que ce soit, et bien on va tirer une carte qui va nous dire si combien il y a de zombies dans cette salle, ou peut-être pas, ou peut-être tomber sur une grosse créature.
Un peu à la manière des premières boîtes de Donjons et Dragons qu'on avait il y a 25 ans, où effectivement, dans chaque salle, on tirait des cartes pour savoir quels étaient ou quel était le monstre présent et quel serait le trésor, d'où le nom d'ailleurs de ces jeux à une époque qu'on appelait pièce monstre trésor, puisqu'on rentrait dans une pièce, on tuait le monstre et on rapportait le trésor.
Voilà, c'est le même principe qu'un dungeon crawler habituel.
Comme un dungeon crawler. Alors voilà, ça fait des termes de jeu et des noms de jeu pour nos éditeurs qui n'ont pas trop l'habitude. Dungeon crawler, on vous laissera chercher sur internet, comme ça vous pourrez voir très exactement ce que ça peut être. Donc Damien, si je t'ai invité aujourd'hui, c'est pour que tu viennes nous parler de ton activité et de ta forge qui s'appelle la Forge du Corbeau. Alors, depuis quand ? D'où ça vient ? Dis-nous en plus.
Alors, la Forge du Corbeau, officiellement, je l'ai ouverte en 2012. Ça devait être le 18 mai de mémoire, ou quelque chose comme ça. C'est, en fait, moi, venant du monde de la reconstitution, j'ai fait une reconversion professionnelle. J'étais plombier chauffagiste et
ouais.
C'est un métier qui me plaisait pas plus que ça. Donc, je me suis dit, je faisais de la forge déjà en amateur. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire mon métier. Donc, je me suis dirigé vers la ferronnerie d'art. Puis ensuite, une fois que j'ai eu mes diplômes, vu que ça m'a plu, je me suis tourné vers ce qui me plaisait le plus, c'est-à-dire aussi la coutellerie et la forge de pièces de reconstitution.
D'accord, donc tu fais de la création de pièces, de la réparation et de la reconstitution.
C'est ça.
D'accord, très bien. Et ce qu'on va faire là tout de suite, c'est qu'on va se faire un petit interlude musical un peu thématique avec ton activité. Et on va reprendre un petit peu tes créations juste après. On va écouter un morceau que tu nous as amené, The Misty Mountain Cold, qui fait partie de la bande originale. Je vois les gens qui sourient autour de moi, c'est à cause de mon accent anglais. Hein. C'est la bande originale du Hobbit. Allez, c'est parti! C'était donc The Misty Mountain Cold de la BO du Hobbit. Alors, Damien, pourquoi cette chanson ?
Alors, pourquoi cette chanson ? Parce qu'en fait, c'est une chanson qui m'a beaucoup parlé lors de la sortie du premier trailer du Hobbit, que j'attendais impatiemment.
Ouais, et, comme plein de fans.
Bah, voilà, dès le premier soir, dès la première diffusion, en rejoignant les copains, je connaissais déjà les paroles de la chanson, donc... Voilà.
Très bien. On aurait pu appeler cette émission, à part à quoi qu'on joue, on aurait pu l'appeler à quoi qu'on geek. Toi, tu sembles être un vrai geek entre les jeux de plateau, la ferronnerie, tes envies cinématographiques, visiblement, tes goûts. Est-ce que tu te considères geek ?
Oui, je me considère geek, effectivement. Après, geek, c'est assez large comme terme, donc finalement, oui, pourquoi pas, mais peut-être autre chose, finalement, on pourrait reparler, comment dire. De geek, on pourrait parler de passionné ou de, enfin, il y a plusieurs termes qui pourraient aller exactement.
Alors, on va revenir un petit peu sur ta forge et sur donc la forge du corbeau. On disait donc que les pièces que tu fabriquais étaient soit des créations originales, soit des reproductions. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus au sujet de tout ce qui est reproduction, donc reproduction historique? Tu as des périodes favorites ?
Alors oui, moi, mes périodes favorites, c'est quand même plutôt l'époque gauloise, l'époque celte, donc on est sur avant Jésus-Christ,
Oui.
En général à partir du 3e siècle avant Jésus-Christ.
D'accord.
Et les pièces vikings, c'est les pièces non seulement qui plaisent à beaucoup de gens, hein, à cause de la série qui a quand même pas mal...
Ah, la série télé viking,
voilà,
d'accord.
Qui a quand même pas mal mis ça sur le devant de la scène. Mais au-delà de ça, ça reste aussi très proche finalement au niveau du style entre le celte et le viking. Et ben en fait, on retrouve beaucoup de similitudes, entre ces deux peuples et leur matériel. En fait.
D'accord. Et alors, qu'est-ce que c'est une pièce gauloise ou une pièce viking?
Alors une pièce gauloise, bah par exemple, on va prendre l'exemple type du couteau gaulois, c'est-à-dire que ça va être une pièce d'un seul tenant. Avec un anneau au bout du manche, c'est vrai, une pièce qui va pas forcément avoir, comme on l'a beaucoup aujourd'hui, des manches en bois ou des choses comme ça. Ça va être quelque chose qui va être vraiment tout en acier.
D'accord, donc tu veux dire qu'en fait on a un grand morceau de métal qui est en réalité un couteau avec le manche intégré à la lame, quoi, finalement.
Exactement.
D'accord. Quand j'ai préparé cette émission, je suis allé voir ton site internet et j'ai vu des noms d'armes et des noms d'épées que j'avais jamais vus avant. Alors, je suis pas un féru d'armes historique et tout ça, et j'ai peur d'écorcher les noms, mais j'ai vu des noms d'épées Sacramax.
Scramasax.
Ah, j'y étais presque. Tu peux nous redire?
Alors, Scramasax.
Scramasax. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Sacramax? Redis-le nous.
Un Scramasax, en fait, c'est un couteau qui est à la base, franc et mérovingien. Et qui a été aussi beaucoup utilisé par les Vikings. En fait, c'est un grand couteau. Qui va nous servir à la fois de couteau usuel, mais aussi de couteau de combat. C'est un petit peu une arme qu'on va garder, un petit peu comme une dague finalement.
D'accord.
Donc c'est à la fois un couteau de chasse, à la fois un outil, à la fois un couteau qu'on va se servir pour manger.
Ouais, le vrai couteau qui sert à tout.
Voilà, c'est ça.
Et alors, parmi les autres pièces historiques que tu peux faire, tu peux nous en citer d'autres ?
Alors oui, il y a le Scramasax, il y a la Hox, donc la hache viking, qui est une hache de combat, il y a la Dainax, qui est aussi une hache de combat viking, on a donc la lance, on a la javeline, le javelot, on a plusieurs types de pointes, les pointes d'épée...
Alors, tu fabriques, parmi pas mal de produits, tu fabriques donc des armes, donc des épées, des haches, des lances.
Voilà.
T'es l'armurier de la région.
Oui, un petit peu.
Alors, tiens, j'en profite, je fais une petite parenthèse, je ne t'ai pas demandé, tu es installé où?
Alors, je suis installé à Chevenon, en fait.
D'accord.
Actuellement, après, peut-être bientôt ça changera, mais bon.
Un déménagement prévu?
Peut-être. Voilà.
D'accord, bon. Donc on parlait de ces armes gauloises, vikings. Tu fais donc d'autres types de pièces ?
Oui, je fais aussi des pièces un petit peu plus modernes pour les gens qui veulent un couteau un petit peu plus approchant entre guillemets d'un opinel par exemple.
Ouais, d'accord.
Voilà. Et je fais aussi des pièces un petit peu plus. Bon, là on va retomber sur le monde un peu plus geek. Je fais par exemple du post-apocalyptique ou des couteaux un petit peu steampunk ou des fois même carrément tirés d'un jeu vidéo.
Ah, donc, d'accord. Voilà. On voit parfois des vidéos sur internet avec des forgerons qui fabriquent des épées de jeux vidéo ou les épées qu'on voit dans des personnages des films, l'épée de Gandalf ou de Boromir ou des choses comme ça. Toi, tu en fais aussi ?
Voilà, oui, ça m'arrive. Alors après, il y a plusieurs types que je peux pas reproduire parce que, par exemple, dès que ça va être quelque chose qui va être trop, travaillé au niveau des formes et tout ça, on n'est plus sur de la forge, on est sur du découpage et c'est pas ma façon de faire. Moi, je fais pas d'usinage. Je suis vraiment parti sur un style de forge, vraiment.
D'accord. Alors, d'ailleurs, très honnêtement, j'arrive pas à me rendre compte de comment tu fais ton métier, en fait, comment tu fabriques une épée. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, en quelques mots, quels sont les processus de fabrication d'une lame, d'un couteau, d'une épée, je ne sais pas?
Ben, en fait, on part tous plus ou moins de la même façon, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir une pièce d'acier, donc soit en fer plat, soit en carré, soit en brique, carrément.
D'accord.
Et en fait, on va la chauffer à un certain nombre de degrés, donc pour pouvoir la travailler à l'enclume, donc on va la frapper pour lui donner la forme qu'on a besoin, et une fois que la forme est faite, là après on a tout le processus derrière d'usinage. Une fois que l'usinage est fait, de traitement thermique, donc la trempe, le revenu, le recuit,
d'accord,
qui va permettre de redonner un petit peu plus de souplesse à la lame.
D'accord. Exemple. Alors là, tu nous dis, tu commences par une, par exemple, une brique d'acier et tu la frappes à l'enclume. Moi, quand on me dit forgeron, j'ai une image stéréotypée dans la tête. J'imagine le forgeron d'Astérix qui tape avec son gros marteau sur son enclume. En fait, à la base, quand tu fabriques une épée ou un couteau, c'est ce que tu fais aussi.
Oui.
C'est cette image un petit peu stéréotypée.
Finalement, l'image un peu stéréotypée d'Astérix et Obélix, effectivement, avec cet Automatix, on n'en est pas très éloigné, finalement. Juste, je ne tape pas qu'avec ma main, je le tape avec un marteau.
Très bien. Bon, mais j'aimerais pas me prendre une claque, alors. donc, tu fais aussi, j'ai vu sur ton site, des bijoux.
Oui.
Alors, quel type de bijoux? Parce que j'ai regardé les photos, on n'est clairement pas sur des boucles d'oreilles traditionnelles, hein, c'est...
Pas vraiment.
Alors, c'est typé. C'est
oui.
Typé aussi gaulois, viking.
C'est typé gaulois, viking, et des fois même encore un petit peu plus éloigné, donc on est plus sur du russe, donc c'est du viking de l'Est. En fait, c'est ce qu'on appelle du torque. Voilà.
Ouais.
Donc c'est soit un objet qu'on va porter autour du cou, soit un objet qu'on va porter autour du poignet, par exemple.
Mm-hmm.
Et parfois même, ça m'arrive de faire des bagues sur le même principe. Et on a aussi, des amulettes en fer forgé qui sont pareilles. En fait, c'est au niveau de la création de bijoux, je suis vraiment parti sur de la reproduction en fait de pièces déjà existantes. Voilà.
D'accord.
Mais vraiment, le but, c'est de vraiment coller un thème ou à une époque et d'essayer de se rapprocher au maximum de la façon de faire de l'époque.
Alors, moi, ça m'interpelle un peu parce que comment est-ce que tu fais pour retrouver, je ne sais pas comment dire, pour retrouver les plans d'un bijou ou d'une arme de l'époque?
Alors, en fait, nous, on a l'avantage en France d'avoir, des musées qui sont quand même relativement partageurs sur ce genre de choses-là.
D'accord.
Moi, ça m'arrive de contacter des musées où je sais pas, par exemple, dans votre musée, je sais que vous avez des pièces gauloises en acier.
Mm-hmm.
Est-ce que ce serait possible de me faire parvenir le rapport de fouille ou le rapport d'exposition?
Ouais.
Et donc, sur ces rapports, on a la composition de l'acier, la forme, la taille. Et avec ça, ça nous permet de faire des reconstitutions.
Ah, mais c'est génial, c'est une partie de ton travail qui est vraiment l'archéologue, quoi, en fait.
C'est ça, en fait, c'est toute la partie recherche qui est aussi très intéressante.
Ouais.
Et quelque chose qu'on ne voit pas forcément souvent aussi, c'est par exemple pour un couteau, c'est les essences de bois.
Ouais.
Où aujourd'hui, on a l'habitude de se dire, un ébène, par exemple, c'est très joli. Oui, mais après, par exemple, sur un couteau gaulois, l'ébène, il n'y a pas.
Oui, bien sûr.
Donc, il faut aussi réussir à trouver derrière quelle essence de bois peut aller avec quelle époque. Et aussi, par exemple, chez les Celtes et les Vikings, il y a un bois qu'ils utilisaient beaucoup, c'est le frêne.
D'accord.
C'est un bois, parce que dans les deux cas, c'est un arbre sacré chez ces deux peuples, et donc ils l'utilisaient énormément pour l'armement et pour l'outillage, puisque c'est un bois qui est vraiment très bon.
D'accord. Eh bien, je n'imaginais pas que dans ton métier, il y avait toute une partie comme ça, recherche historique ou presque archéologique en contact avec des musées. C'est formidable. Donc du coup, des armes, des couteaux, de la ferronnerie, des bijoux, des reconstites et des créations, tu as un sacré catalogue.
Oui, j'essaye de me diversifier au maximum pour pour donner un maximum de choses possibles aux gens. Et puis je fais aussi des choses sur commande. Ça m'arrive qu'il y ait des gens qui me disent par exemple, j'ai une idée de quelque chose en acier en tête, est-ce que vous pourriez me le faire? Et la réponse est oui.
Bon, moi, j'avoue t'avoir passé une commande spécifique il y a quelques années pour l'anniversaire d'un proche. Il me fallait un couteau à champignons et tu nous avais fabriqué un couteau avec une lame arrondie pour bien pouvoir couper le pied du champignon correctement. Enfin, c'est vrai que c'était génial. Et toi, tu as parmi tes créations, tes pièces, est-ce qu'il y en a une que tu préfères plus que les autres ou une série que tu préfères plus que les autres?
Alors oui, en général, j'aime beaucoup, c'est les couteaux celtes sont vraiment pour moi souvent les plus intéressants à faire parce qu'il y a beaucoup plus de travail de forge et beaucoup moins de travail d'usinage.
D'accord.
Les couteaux celtes et l'armement celte en général sont les plus intéressants puisque on le sait pas beaucoup, mais les celtes, les gaulois en fait, c'était les meilleurs forgerons de leur époque et c'est un petit peu eux qui ont développé toutes les techniques qu'on utilise encore aujourd'hui.
D'accord. Et alors, ça ressemble à quoi, un couteau celte?
Bah, par exemple, un couteau celte, comme je le disais tout à l'heure, on va voir, il est composé donc de trois choses. Le couteau de celte de base, par exemple, c'est la lame, le manche qui est toujours dans le même acier, et au bout de ce manche, on a un anneau qui nous permet de le sortir très facilement du fourreau. Ça nous sert aussi de sécurité, parce que comme il n'y a pas de garde sur ce couteau, eh ben on glisse le petit doigt dedans, et quand on tient le couteau, ça évite que ça glisse si on travaille ou qu'on fait quelque chose de dur avec.
D'accord.
Par exemple.
Très bien. Merci Damien pour ces précisions. Alors, on va faire un deuxième interlude musical. Alors, tu nous as amené la chanson d'un groupe que je vais te laisser présenter, Damien. J'ai trop peur d'écorcher le nom. Alors, on va écouter un morceau qui s'appelle
Soukelos.
D'accord.
Et qui groupe Élu va ici.
Eh bien, c'est parti. Alors donc, c'était Damien Rodinou.
Élu Sukelos du groupe Élu ici.
Alors, pourquoi ce groupe? Pourquoi cette chanson, Damien?
Alors, pourquoi cette chanson? Parce que Sukelos, en fait, c'est un dieu celte. Voilà, c'est un D'accord. des dieux celtes que je préfère, puisque c'est le dieu au marteau. C'est lui qui tient la porte de la vie et de la mort, en fait. C'est un gardien.
Très bien. Damien, est-ce que tu as des projets pour cette année? Est-ce que tu vas être sur des manifestations, des marchés, des choses comme ça?
Alors, des marchés médiévaux, comme je fais d'habitude, cette année, je ne pense pas que j'aurai l'occasion d'en faire, puisque je n'avais plus de véhicule adéquat. Et donc, bah voilà, mon projet, c'est d'en acheter un, et je viens d'en trouver un.
Parfait. Oui, parce que les autres années, on te retrouve sur bon nombre de marchés de la région.
Oui, j'essaye au maximum de faire les marchés de la région, puisque bah, on est souvent en train de se plaindre qu'il n'y a pas forcément grand-chose, donc quand il y a quelque chose, autant être là.
Oui, c'est vrai, tout à fait. On t'avait vu cette année au Geekerie de Nevers, t'étais venu tenir ton échoppe durant l'événement.
Oui, exactement.
Et puis bah, les années précédentes, t'étais sur les grosses manifestations médiévales du coin. Oui, il me semble t'avoir déjà vu sur Passy-les-Tours.
Passy-les-Tours, Varzy, Passy-les-Tours. Par exemple, je vais peut-être finalement essayer quand même de le faire si mon camion me le permet. Passy-les-Tours, Varzy. Pas très loin, on avait aussi la chapelle d'Angillon.
Oui, tout à fait.
Voilà, le château médiéval de Sagone. Voilà, où il y a quand même pas mal de fêtes qui sont.
Donc plus de marché pour l'an prochain, quoi.
Voilà, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu garder de l'énergie sous le coude pour l'année prochaine, en faire plus.
D'accord. Alors en attendant, si on veut te contacter ou voir tes produits, tes créations, où est-ce que l'on doit aller, Damien?
Alors, on peut me trouver très facilement sur Facebook. Il suffit de taper « La Forge du Corbeau » et vous allez trouver. Et j'ai aussi un site internet qui s'appelle laforgeducorbeau.com. Voilà, donc ensuite on peut après via ces sites soit me téléphoner, soit m'envoyer un mail.
Très bien. Et alors on peut te poser plein de questions bizarres pour des créations.
Exactement.
Tu n'as peur de rien.
Je n'ai peur de rien,
parfait.
Je réponds.
Et tu aimes les challenges.
Et voilà, voilà. Exactement.
Bien, alors je vais te poser la petite question que j'aime bien poser à mes amitiés, à mes invités, pardon, et qui pose toujours souci. Est-ce que tu as un mot pour la fin, Damien?
Bon feu.
Très très bien. En tout cas, merci Damien d'avoir été mon invité à cette émission d'À quoi qu'on joue. Vous pourrez retrouver tout le programme d'animation qu'on vous a cité en début d'émission sur le site internet du Conservatoire du Jeu, leconservatoiredujeu.fr, ou sur notre page Facebook. Quant au site de Damien, il va nous rappeler l'adresse.
Laforgeducorbeau.com.
Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi l'émission. En attendant le mois prochain, je vous souhaite une belle fin de journée sur BAC FM 106.1. Et surtout, rappelez-vous, soyez ludiques.